Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que ça en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et mon petit camarade des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier.
Je suis anarchiste. Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Voilà, il est 19h03, passé 3. À la pendule la plus rebelle des radios, un petit retard pour le Canu Info qui a mis du temps à se mettre en place un petit peu aujourd'hui. Mais le Canu Info va avoir lieu, un Canu Info un peu particulier puisque Delphine, qui est la deuxième partie de l'équipe, est pas là. Mais bah oui, elle est absente. Prise par le salariat, hein, c'est un petit peu compliqué des fois d'être obligé d'aller travailler le soir ou le dimanche et le week-end. Donc c'est le cas de certaines personnes. Donc elle s'absente. Elle reviendra la semaine prochaine. Mais d'ici là, nous ferons un Canu Info à peu près normal. À peu près normal, si ce n'est que la première partie sera un Canu Info traditionnel. Et après, à partir de 19h30, nous recevrons, comme nous l'avons déjà fait une fois, des copains de Lacrimette 69 pour parler, pour critiquer, pour avoir un regard critique sur les médias. Avec deux sujets aujourd'hui, vous verrez un autour de l'économie et l'autre un peu dans l'actualité du traitement des attentats par les médias, notamment les médias dominants. Alors on va commencer par la petite phrase qui m'a un petit peu fait rire et énervé, que j'avais raté à l'époque, puisque c'était une interview qui était parue dans le Figaro du 4 novembre. Alors déjà, un, je lis pas le Figaro. Deux, c'est quelqu'un que je ne suis pas du tout, puisqu'il s'agit de Yves de Kerdrel, qui bosse à Valeur Actuelle. Vous savez, ce journal de droite, voire d'extrême droite, et il s'est attaqué aux gens qui défendent l'écologie. Alors, on avait déjà été traités, nous, les écolos, de Khmer Vert, il y a quelques années. Ensuite, l'année dernière, c'était Xavier Belin, oh là là, grand pollueur, s'il en est, qui nous avait traités de djihadistes verts, et oui, et là, cette fois-ci, ce monsieur Yves de Kerdrel nous a traités d'ayatollah de l'écologie. Ça me fait plaisir d'être un Khmer, d'être un djihadiste, d'être un ayatollah pour cet énergumène, défenseur de la pollution, du capitalisme, du patronat. Alors s'il a fait cette interview au Figaro, c'était autour, bien évidemment, de la fameuse COP21 qui est censée commencer la semaine prochaine. Ce qui l'a énervé, c'est le discours des militants écolos qui s'opposent à cette COP21 qui va être tout sauf écolo, bien évidemment. Et lui, ça lui fait peur. Alors pour le citer, je vais vous dire une ou deux phrases de ce qu'il a lu, que j'ai redécouvert hein, ce mercredi, c'est-à-dire hier, dans le Canard Enchaîné. Il a dit, je cite, « Le dernier danger qui pèse sur cette fameuse COP21, c'est le mot décroissance qui commence à réapparaître dans la bouche des ayatollahs de l'écologie. Comment vendre ce malthusianisme d'un autre siècle à une à une Europe où actuellement l'on ne compte pas moins de 23 millions de chômeurs. Alors oui, son idée, c'est que les écolos et notamment les décroissants prennent pas en compte l'idée de le problème du chômage et que c'est la croissance qui crée du travail. On rappelle que si on partageait le travail, on pourrait être décroissant, partager le travail et il y aurait pas de chômeurs non plus. Mais vraisemblablement, pour cet idéologue de l'extrême droite et du patronat, c'est incompréhensible. Alors ensuite, il va donner des exemples, je le cite encore une fois. La seule issue raisonnable à ce problème, donc du réchauffement climatique, c'est encore une fois l'innovation, comme le montre la multitude de jeunes sociétés cherchant soit à enfuir le CO2 dans le sol, soit à en transformer l'énergie solaire en mégawatts, soit à utiliser les ordures pour fabriquer des nouveaux matériaux. Plutôt que de normer, réguler et faire croire qu'ils sont les sauveurs de la planète, les donneurs de leçons de l'écologie feraient mieux de saluer ces inventeurs d'un avenir propre. Et pour le reste, de s'en remettre à Cocteau, il cite, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Le problème, c'est que les mystères, il n'y en a pas. Hein, on connaît très bien, la science analyse parfaitement le dérèglement climatique, avec les imperfections des modèles scientifiques et mathématiques, bien évidemment. Mais voilà, donneur de leçons de l'écologie, c'est assez drôle. Pour lui, polluer encore plus, c'est la solution. Alors bien évidemment, fabriquer des nouveaux matériaux à partir des ordures, c'est, pour lui, c'est le bonheur. Bah, l'idée, c'est plutôt de pas fabriquer d'ordures, hein, comme ça résout aussi les problèmes. Pareil, pour enfouir le CO2 dans le sol, il n'y a aucune étude scientifique qui démontre que ça peut marcher, que c'est fiable à très long terme. Hein. Ça n'existe pas pour l'instant. Lui, il a l'air d'être meilleur que tous les scientifiques du monde. Mais bon, voilà, c'était pour citer un petit idéologue de la droite anti-écologiste. On va faire un petit point maintenant dans un sujet radicalement différent sur Israël et Palestine. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait. Peu d'évolution hein, dans la situation, mais une dégradation quasi constante. Alors là, on a une petite info qui date de quelques jours, mais c'est le Croissant Rouge palestinien qui fait un bilan de ce qu'ils ont vécu, eux, depuis, on va dire, ce que certains appellent l'intifada Jérusalem, c'est-à-dire depuis le 1er octobre, ce qui s'est passé, notamment à l'esplanade des mosquées, et ensuite tout ce qui a pu se passer derrière. Et eux, ils ont une vision médicale avant tout, et médicale à travers leur travail, hein, en tant que Croissant Rouge, l'équivalent de la Croix-Rouge hein, dans les pays musulmans. Et donc ils ont, d'après eux, constaté qu'ils avaient été attaqués 277 fois par l'armée israélienne, eux, en tant qu'ambulanciers, médecins du Croissant Rouge. Ils ont noté que 131 médecins palestiniens avaient été blessés lors des attaques israéliennes durant la même période, que 76 ambulances ont été touchées, alors soit par des grenades lacrymo, des bombes assourdissantes et autres projectiles lancés par l'armée d'occupation israélienne. Voilà, bon, il y a plein d'exemples comme ça qui démontrent que, d'après le discours israélien, qu'ils attaqueraient les méchants terroristes palestiniens, bizarrement, ils attaquent aussi beaucoup les médecins, les ambulanciers palestiniens. Et là, la justification est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, ils n'en parlent pas. C'est comme ça, ça résout les problèmes. Donc voilà, un petit mot là-dessus. Sur les brèves et les news du jour sur la Palestine, un Palestinien de 21 ans a été tué aujourd'hui par des soldats israéliens à Katana. Donc c'est en Cisjordanie, un endroit où normalement l'armée israélienne ne devrait pas être. Mais elle y est quand même. Donc il a été atteint à la tête par des tirs au cours d'un affrontement avec des militaires. Donc c'est un village qui est à l'ouest de Jérusalem. C'est la région quand même la plus tendue, il faut le dire aussi. Donc depuis le 1er octobre, le début de cette fameuse intifada Jérusalem, il y a quand même eu pas mal de morts des deux côtés, mais surtout du côté palestinien, hein, 95 du côté palestinien, 17 du côté israélien. On notera qu'il y a un arabe israélien, et un américain et un érythréen qui ont été tués depuis la remontée de ces... La remise au goût du jour hein, de cette intifada, de ces résistances violentes de la part des Palestiniens aux brimades et à l'occupation israélienne. Voilà. On apprend aussi d'ailleurs de la part de Moshe Yaalon, qui est le ministre de la Défense, que 800 Palestiniens, ces deux derniers mois, ont été arrêtés par les forces d'occupation israéliennes. Alors, il y a eu une nouvelle tentative d'attaque au couteau. Hein, un Palestinien a tenté d'attaquer un garde frontière. Donc, il a été tué direct, parce que face à quelqu'un qui a un couteau, le mieux, c'est de lui tirer une balle dans la tête. C'est fait. Donc, voilà, il a été tué par l'armée alors qu'il agressait les gardes frontières. et apparaît tout doucement, comme ça, au sein de l'état-major, donc c'est-à-dire l'armée israélienne, un petit discours dissonant sur la politique à mener face à ces violences israélo-palestiniennes. Alors c'est pour l'instant relativement faible, mais on sent qu'il y a un début peut-être de quelque chose, notamment quand ça vient de l'armée, ça peut faire un petit peu pression sur Benjamin Netanyahou. Et on se rend compte finalement quelquefois que l'armée est moins à droite que Benjamin Netanyahou. Donc ça vient de différents militaires qui... notamment dans la presse, dans la, sur la radio, vous savez qu'il y a une radio, vous savez peut-être pas, mais il y a une radio militaire israélienne. Et on entend, alors soit sous le couvert de l'anonymat, comme c'est le cas d'un officier israélien hein, qui a, dans un journal, invité Benjamin Netanyahou à désamorcer ce qu'il a appelé, lui, le soulèvement limité, notamment en autorisant davantage d'ouvriers palestiniens à venir travailler en Israël, à libérer des détenus qui présentent peu de risques, à mieux aider les forces de l'ordre palestiniennes. Un discours presque progressif, en tout cas pour un militaire carrément progressif, adressé donc à Benjamin Netanyahou. On a aussi le colonel Nimrod Aloni, qui est commandant du 1er bataillon parachutiste de l'armée israélienne, qui lui aussi a dit que il fallait peut-être faire autre chose, hein, que le problème c'était pas une question militaire, mais que c'était une question politique liée aux décisions du gouvernement et qu'il fallait vraisemblablement changer peut-être de politique. Donc on sent les divergences monter petit à petit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, à voir si ces militaires qui ont un discours un petit peu différent sauront se faire réellement entendre. Pour l'instant, on n'a pas d'idée là-dessus, mais on verra dans les semaines et dans les jours qui viennent. Alors, maintenant, autre sujet, nous allons reparler un petit peu de l'état d'urgence et de la disparition progressive, voire presque brutale, de la démocratie dans certains cas. Alors, la dernière action au jour de la disparition de la démocratie, c'est à Lyon, le préfet, très 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 à droite, Michel Delpuech, qui a donc hier interdit la manif, enfin la marche pour le climat qui devait avoir lieu ce samedi. Donc des gentils militants qui veulent défendre la planète, qui manifestent, ça lui plaît pas. Il se sert bien évidemment de l'excuse de la protection, de l'état d'urgence, des dangers. On ne sait pas quel danger pourrait courir la manifestation, mais enfin bon, bref, il interdit de toute façon toutes les manifestations. Ah non, pas toutes. Ah oui, il fait une petite différence entre les manifestations qu'il, je cite, sur la voie publique à caractère revendicatif ou protestataire, qui elles sont interdites. Donc l'action citoyenne, l'action militante est prohibée dans cet état d'urgence. Par contre, il dit bien, le reste, les trucs sympathiques, c'est-à-dire le sport, c'est sûr que le degré de politique du sport est faible, voire inexistant, et quand il est là, c'est pas très glorieux. Les manifestations récréatives ou culturelles ne sont pas visées par cette interdiction, donc il y a un vrai choix, c'est pas une question de sécurité. Hein, on imagine bien qu'un match de foot, un truc comme enfin, des gros événements attirent plus de personnes qu'une manif pour le climat. Mais c'est la manif pour le climat qui est visée. Alors il y a plein d'actions comme ça partout en France où petit à petit tous les mouvements militants sont étouffés grâce à cet état d'urgence. Un truc dont rêvait la droite quand ils étaient au pouvoir, qu'ils n'avaient jamais pu mettre en œuvre, et c'est les soi-disant socialistes qui privent les citoyens de leur liberté, de leur droit de s'exprimer. Alors, je vais revenir quand même du coup sur des petits faits qui ont montré un petit peu les dérives quasi généralisées, on va dire quasiment, de l'état d'urgence, qui sont inévitables, hein, ces dérives dans un système d'état d'urgence. On va remonter, alors j'en ai listé quelques-unes, mais j'ai pas tout listé parce qu'il y en avait beaucoup. Alors, on va remonter la première qui est, je trouve, symptomatique, c'est celle qui a concerné Ibrahim Malouf le 17 novembre 2015. Donc Ibrahim Malouf, hein, c'est un musicien de jazz ultra célèbre. Hein, on a pu le voir il y a un an et demi à Vienne, enfin, il tourne beaucoup, il a un succès incroyable, il est reconnu un peu partout, il allait prendre le train à la gare du Nord pour aller donner un concert à Londres, il s'est fait arrêter par la flicaille, la flicaille a dit qu'il était fiché à Interpol, donc voilà, quand on fait du jazz, on est fiché Interpol. Ça doit être parce que c'est une musique qui est un peu révolutionnaire quelque part dans la manière d'aborder les choses. Je sais pas. En tout cas, il a découvert ça. Donc, ils l'ont un petit peu embêté. Ils l'ont dit qu'il n'avait plus le droit de voyager que ce passeport. Voilà. Bon. Bref, l'état d'urgence a quasi empêché Ibrahim Malouf. Finalement, ça s'est bien terminé. Même lui, qui est pas forcément ultra politisé non plus, il dit, je cite, « Je pense qu'il y a, depuis la promulgation de l'état d'urgence, des procédés qui doivent dépasser les surveillances habituelles. Et là, je ne suis qu'un dommage collatéral insignifiant. » Le problème, c'est que c'est un dommage collatéral insignifiant, plus un autre, plus un autre, plus un autre, et du coup, à la fin, c'est plus si insignifiant que ça, ces dommages collatéraux. Autre, alors du coup, je vais donner plein d'autres exemples assez rapidement. Le 18 novembre, c'est presque le pire qui soit arrivé à quelqu'un, même si pour l'instant l'histoire se termine plutôt bien, c'était Ahmed. Donc lui, il habitait à côté de l'appart qui a été attaqué, pris d'assaut par les forces spéciales françaises. C'était en milieu de semaine dernière. Donc il s'appelle Ahmed, il est peintre en bâtiment, 63 ans. Il est en France depuis 9 ans et il a le défaut d'habiter à côté de cet appart d'Abaoud, à Saint-Denis. Et aussi d'être sans papier. Alors sur le coup, ça l'a pas trop gêné. Les flics rentrent dans son appart juste avant de rentrer, d'essayer de rentrer et finalement de tuer tout le monde, presque, dans l'appart d'à côté, juste pour vérifier qu'il n'y ait pas de porte qui communique entre les deux appartements. Et ils lui disent après de se mettre dans un coin et d'attendre que ça passe. Et puis quand c'est fini, ils lui disent qu'il peut sortir et montrer, sortir les mains en l'air à la fenêtre. Et quand il fait ça, il se fait tirer dessus par la police. Ils sont sympas quand même, hein. Et donc là, il l'emmène à l'hôpital, il se rend compte qu'il est sans papier et il est notifié un arrêté de reconduite à la frontière. C'est quand même un procédé assez sympathique pour quelqu'un qui s'est fait tirer dessus par la police alors qu'il était pour rien du tout. La police aurait pu tuer quelqu'un innocemment, mais on se débarrasse de ce gars en l'expulsant. Alors il est entouré d'avocats et a priori pour l'instant l'arrêté est suspendu, à voir ce qui va se passer dans l'avenir. Enfin, c'est quand même symptomatique de ce qui peut se passer. Alors dans les autres trucs plus drôles, parce que là il n'y a pas mort d'homme et pas blessé non plus, donc c'est trois hommes qui sont interpellés en gare de Massy vendredi de la semaine dernière. Donc eux, ils étaient montés dans le TGV, c'est des jeunes, c'est plus facile d'être opéré quand on est jeune. Et puis, ils n'ont pas peut-être la peau assez blanche. Ils rentrent dans le TGV, ils rencontrent un petit jeune, ils discutent et ils décident de regarder un film ensemble sur leur ordinateur. Un film d'action américain. Donc, du coup, il y a des tirs, des armes dedans. Enfin, un film d'action américain, on imagine bien à quoi ça peut ressembler. Et il y a certains passagers qui ont trouvé ça suspect. Du coup, ils ont prévenu la flicaille et les mecs se sont fait arrêter à la descente. Donc à Massy, ce qui quand même, et bon, ça a bloqué en plus tout le TGV. Finalement, ils se sont rendu compte que c'était juste des jeunes qui regardaient un film. Voilà. Alors bon, forcément, ils avaient pas le bon look, ils étaient un petit peu jeunes et ils se sont fait arrêter par les flics. Alors ça a permis aussi, ce couvre-feu, de mettre en place des limitations des libertés. Il y a quelques exemples. À Sens, ça a été le premier couvre-feu qui a été mis en place pour empêcher pendant quelques jours la population de sortir le soir. Interdiction de sortir, ça a duré du vendredi 20 novembre au lundi 23 novembre. Donc couvre-feu généralisé. Hier, c'est la ville gérée par l'extrême droite et Nicolas Dupont-Aignan, l'extrême droite souverainiste, comme on dit, quand on est poli, parce qu'il faut rester poli avec ces gens-là, c'est un autre débat, mais en tout cas, lui, il a fait tout de suite aussi un arrêté municipal pour interdire aux jeunes de sortir aux moins de 13 ans. Alors, je sais pas, il pense que les jeunes sont des terroristes en puissance, on se demande, ou, comme il dit, c'était pour les protéger, mais on sait pas les protéger de quoi. Voilà, alors je pourrais en citer plein d'autres, on terminera dans les actions comme ça hyper autoritaires de l'État français suite aux attentats. La manif de la semaine dernière, c'était à Paris. Alors on rappelle qu'il y avait un rassemblement pour défendre les migrants à Place des Terreaux, samedi dernier ça a été interdit. Et à Paris, il y a quand même eu des gens qui se sont regroupés et pour faire une manifestation pour soutenir les migrants. Et ben, il y a eu arrestation en série, 58 personnes sont poursuivies, dont deux militants de droit au logement. Alors ça doit être des dangereux terroristes, hein, les militants de droit au logement. Il faut savoir qu'ils risquent 6 mois d'emprisonnement et une amende de 7 500 euros pour avoir juste manifesté leur soutien aux migrants. Ah oui, mais c'est l'état d'urgence, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense et de le montrer dans la rue. Donc voilà, on pourrait en parler des heures et des heures de ces dérives du système sécuritaire. On va espérer qu'ils vont vite arrêter cet état d'urgence, histoire que la situation s'apaise, même si on sait qu'on est déjà dans un état sécuritaire quand il n'y a pas l'état d'urgence. Alors, on va reparler très brièvement de la Turquie maintenant. Vous savez que les Turcs ont descendu un appareil russe, un avion, très exactement, un Sukhoi, et que c'est un petit peu la guerre, en tout cas pour l'instant par les paroles, entre la Turquie de M. Erdogan et la Russie de M. Vladimir Poutine. Vous allez me dire, il n'y en a pas un qui est défendable et qui est mieux que l'autre, mais en tout cas, ce qu'on notera, c'est que Recep Tayyip Erdogan reste campé sur ses positions. Il est assez fort, hein, dans le mensonge et dans la propagande, ce Erdogan, puisqu'il va jusqu'à dire à Poutine que non, d'abord ils n'ont pas fait exprès, ils ne savaient pas que c'était un russe, un avion russe, etc. Finalement, on n'a pas la vérité là-dessus, mais il ose quand même annoncer qu'il continue de se battre contre l'État islamique avant tout, et qu'ils n'achètent pas de pétrole à l'État islamique, enfin à Daesh, tout ça, parce que c'était les accusations portées par les Russes. Alors d'abord, le pétrole, il arrive en Turquie. Alors c'est pas l'État forcément qui achète, bien évidemment, mais sont des capitalistes turcs, et l'État est au courant de ce qui se passe et n'a jamais bloqué ce trafic entre Daesh. D'ailleurs, il y a des Turcs qui vont vendre plein de choses, des poulets et d'autres choses à Daesh, leur permettant de vivre. Donc l'hypocrisie de Recep Tayyip Erdogan est toujours aussi importante. Et il va jusqu'à dire qu'il continue de combattre avant tout l'État islamique, alors qu'on sait pertinemment qu'il combat avant tout les Kurdes, et que c'est bien contre les Kurdes, le PKK en interne et les Kurdes en Syrie notamment et en Irak, qui eux subissent la vindicte de l'État turc. Donc voilà, il ose dire qu'ils sont les premiers à être au front contre Daesh. Bizarrement, on voit pas beaucoup de Turcs se battre à Kobané, alors qu'on sait que les Kurdes y sont. Hein. Voilà, une belle propagande quand même de la part de Recep Tayyip Erdogan. Bon, ça va sûrement se calmer, parce que diplomatiquement, tout le monde a intérêt à ce que la Turquie reste sympa avec et Poutine et les Européens. Ça va aller. Ça va pas aller bien loin, hein, la diplomatie, c'est toujours quelque chose d'assez glauque. Mais bon, pour l'instant, c'est un petit peu tendu. Alors, nous allons continuer ces petites brèves d'informations, là, comme ça. C'est un petit peu difficile de faire un canu info tout seul, quand même, parce que d'habitude, il y a un dialogue, là, je fais une espèce de monologue, mais on va quand même continuer. Après, je ferai après un monologue, puisque nous aurons la CRIMED. En attendant, je vais revenir sur les propos du père Hervé Benoît, qui a... C'est une tradition catholique, on va dire, dans nos pays, attaquer le rock et notamment le métal comme étant une musique sataniste et qui s'est servi des attentats pour le faire, ce qui est quand même relativement glauque. Alors on sait que le rock et le métal est attaqué grosso modo par pas mal de religions, notamment les religions monothéistes, hein, parce que dans les pays musulmans, faire du métal, c'est un poil impossible. En Europe, ça va à peu près. Aux États-Unis, on se rappelle des années 80 où il y avait le PMRC, notamment des groupes comme ça, qui combattaient beaucoup les rockers et les hard rockers. Alors lui, Hervé Benoît, il est dans cette tradition d'extrême droite anti-musique, et notamment celle qui est censée véhiculer les propos du diable, hein, parce que c'est de ça dont il est question. Donc il a osé dire des choses assez horribles sur ce qui s'est passé. Alors notamment en parlant des aigles de la mort métal, la traduction littérale, assez moche d'ailleurs, de Eagle of Death Metal, le groupe de rock metal, on va dire, qui jouait au Bataclan lors de ce funeste vendredi 13. Et du coup, il les met un peu dans le même camp, en disant que ben eux, ils véhiculaient les idées du diable. Finalement, quelque part, ils ont récolté ce qu'ils avaient semé, ce qui est pas mal quand même. Alors ils avaient ce genre de keto avait le même discours avec Charlie Hebdo. Ils ont semé quelque chose. Ils publiaient des caricatures, c'était méchant avec les religions. Ils sont pris les religieux intégristes en pleine gueule. Là, c'est un peu le même discours. C'est quand même assez inquiétant, surtout que c'est quelqu'un d'assez haut placé dans le diocèse à Lyon. et que le laisser parler comme ça, tenir ce genre de propos, paraît quand même un petit peu limite. Alors, je ne vais pas vous lire tout le texte, il est disponible, hein, tout son article, sur un site de cathos racistes, qui doit s'appeler Riposte Catholique, ou quelque chose comme ça, qui est intéressant à lire, parce que vous avez des propos qui sont assez incroyables. Donc voilà, bien sûr, il dit que ces groupes véhiculent toujours les idées du diable, aussi bien sur les t-shirts, sur les tatouages. Il va jusqu'à citer quelques extraits de chansons. Voilà, c'est assez pitoyable quand même de voir et d'entendre ça de nos jours. En 2015, le rock et le métal est encore attaqué sur ces idées. Il a pas bien compris le second degré, que ça faisait partie d'une tradition, d'une espèce de décorum, hein, le côté théâtral, tout ça. Je pense qu'il prend au pied de la lettre. En plus, musicalement, il n'a pas l'air d'aimer ça du tout. Bon, ça, c'est une question de goût. Voilà, bon, je ne vais pas citer tout ce qu'il a dit, parce qu'au début, j'étais parti pour lire une bonne partie, mais c'est trop horrible. Voilà. Alors, avant de passer à cette rubrique pour parler des médias, quelques petits mots sur l'écologie, pour terminer ce bref Canu Info. Le petit mot, c'est un soutien quand même à quelqu'un qui a fait des actions de sabotage. Le sabotage, c'est un petit peu passé de mode, c'est mal vu, le capitalisme a beaucoup attaqué avec la droite, et notamment les socialistes aussi, en condamnant systématiquement les actions de sabotage, notamment dans les années 70. Du coup, ce type d'action a un petit peu disparu aujourd'hui. Et il y a un Blaisois de 45 ans qui a continué cette tradition. Il est opposé à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et donc pour se venger, enfin pour essayer d'empêcher la construction, il attaque deux entreprises, Eurovia et Colas, qui vont participer à la future construction, aux futures constructions de l'aéroport. Et dès qu'il voit des camions de chantier, des engins de chantier de ces entreprises, il leur crève les pneus. Enfin, il s'organise, il fait pas ça en plein jour, tout ça. Donc, il a énervé énormément la police, qui le recherche depuis des mois et des mois, parce qu'il le fait pas souvent, il le fait irrégulièrement. Du coup, pour les flics, c'est pas facile à arrêter. Ils ont relevé des empreintes, ils ont relevé des traces ADN, mais il est pas fiché. Ils ont beaucoup galéré, et ils sont contents d'eux, puisqu'ils ont arrêté ce Blaisois de 45 ans qui crevait les pneus avec une sorte de perceuse, une chignole. Ils sont allés chez lui, ils ont trouvé la chignole, il a avoué, il a dit bah ouais, sans problème, il a assumé ses actes de sabotage en disant que il voulait porter préjudice à ses entreprises pour pas qu'elles participent à la construction de cette horreur qui est le nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes, de Nantes, donc Notre-Dame-des-Landes. Voilà, bon, il risque quand même beaucoup, parce que le préjudice est pour l'instant estimé à 160 000 euros. Et ça pourrait aller jusqu'à 200 000 euros, et voilà, il y a peu de chances qu'il gagne son procès. Donc symboliquement, on le soutient quand même, puisque le sabotage, c'était quand même un moyen très important pour le peuple de s'opposer, notamment aux puissants. On se rappelle des ludites, hein, au 19e siècle en Angleterre, qui ont essayé de s'opposer par le sabotage à l'arrivée des machines qui leur prenaient le boulot et qui les avilissaient au travail. Il y a eu comme ça dans l'histoire de la lutte, notamment contre les machines, mais aussi contre le capitalisme, des actes de sabotage. Ça n'a pas toujours été efficace. Là, le pauvre, ça n'a pas été super efficace, parce que l'aéroport, malheureusement, toutes les formes de lutte pour l'instant n'ont pas totalement gagné, mais pas totalement perdu. On a quand même un petit peu d'espoir. Alors, toujours dans cette rubrique sur l'environnement, on a le pape qui s'est exprimé. Alors, ça nous fait toujours rire quand il parle d'environnement, lui qui se déplace en avion, puisqu'il a parlé de la COP21, il a dit, je le cite, un échec serait catastrophique. Moi, j'ai envie de lui répondre que si c'était une réussite, ça serait aussi catastrophique qu'un échec, puisque vu ce qui est en train d'être annoncé, si jamais il valide les projets, grosso modo, on va pas vraiment gagner, on va pas arrêter les bêtises et la destruction de l'environnement. Donc voilà, il faut être un petit peu réaliste, monsieur le pape, hein, quand même. Je me permets de parler au pape, hein. Je n'ai aucun lien ni symbolique ni réel avec lui. Et puis pour terminer, allez, le tiercé gagnant des pays qui polluent le moins dans le monde, c'était fait par l'université de Yale et de Columbia. C'est donc le prétexte de la COP21 pour donner un petit peu ce classement. La France est en 27e position, c'est pas la classe du tout. Alors, j'ai pas tous les détails du classement, il faudrait aller lire tout le texte en anglais, ce que je n'ai pas pris le temps de faire, mais dans les résumés qui sont sortis, alors la Suisse est en premier, a priori, sont champions de la dépollution et du recyclage, nos compatriotes suisses, juste à côté. Le Luxembourg, alors, un pays qui n'est pas un vrai pays, qui est tellement petit, je ne suis pas sûr que ça soit représentatif de quoi que ce soit, mais a priori, ils ont des grandes campagnes de protection de la biodiversité et d'assainissement de l'eau. L'Australie a fait beaucoup d'efforts, ils sont troisième. Il faut savoir qu'il y a une grande partie désertique, du coup, ils ont des grosses problématiques d'augmentation de la désertification. Et ils ont fait plein de choses qui les ont fait classer troisième. Il y a Singapour, hein, qui est une ville avec 50% d'espace vert. C'est assez inimaginable vu de Lyon, hein, puisqu'on a très très peu d'espace vert. La République tchèque, alors la République tchèque qui est cinquième, c'est vraiment un très bon exemple de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'ils sont partis, ils étaient à la queue, hein, des pays les plus pollués d'Europe lors de la sortie du bloc communiste. Aujourd'hui, ils ont fait énormément d'efforts et c'est un des pays européens qui respecte le plus les normes européennes sur l'environnement. L'Allemagne est sixième, notamment grâce à son choix d'arrêter le nucléaire, de baisser de 80 à 95% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce qui rend la France totalement ridicule. Développement du photovoltaïque. Alors bien évidemment, il y a toujours quelques anti-écolos qui disent « Ouais, mais regardez, ils ont redémarré 2-3 centrales au charbon. » Alors d'abord, leur impact elle est quasi négligeable en Allemagne et c'est que temporaire. Donc, voilà, l'Allemagne est quand même bien mieux classée. La France, j'ai dit 27e, l'Allemagne 6e. Enfin, voilà, il y a plein de pays après, la Suède, Norvège, qui sont assez bien classés. Chaque fois, c'est sur des positions un petit peu différentes. Chacun a choisi un petit peu sa manière. La Norvège, qui est quand même un pays qui extrait beaucoup de pétrole, qui a donc une grosse part d'émissions de CO2, directe ou indirecte, et qui a mauvaise conscience, a mis en place une politique de développement durable, pour prendre les mots du capitalisme, et sinon de développement des énergies renouvelables, notamment dans le but de produire la totalité de l'électricité par du renouvelable. Donc voilà, il y a des choses qui progressent dans certains pays, a priori beaucoup moins en France, mais ça c'est un autre débat. Il est 19h32, voilà pour cette première partie du Canu Info, on fait une micro-pause musicale, le temps de faire rentrer nos invités de la crémette qui vont venir parler des médias.
Je veux que mes chansons soient des caresses ou bien des poings dans la gueule à qui ce soit que je m'agresse. Je veux vous remuer dans vos fauteuils, alors écoutez-moi un peu. Les pouces mégots et les nez de bœufs, les ringards, les folques, les journaleux. Puis qu'il y a mon nom dans vos journaux, qu'on voit ma tronche à la télé, où je vends ma soupe empoisonnée. Vous m'avez un peu trop gonflé. Je suis pas chanteur pour mes copains et je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec Aragon que le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons et l'homme n'est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sur le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos, tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau. Tous ceux qui me traitent de démagos dans leur torchon que je n'irai jamais. Mon renom c'est mort, il est récupéré. Tous ces petits bourgeois incurables qui parlent pas, qui écrivent pas, qui bavent, qui vivront vieux leur vie minable, ont tous dans la bouche un cadavre. De toute façon je chante pas pour ces blaireaux et j'ai pas dit mon dernier mot. C'est sûrement pas un disque d'or ou un Olympia pour moi tout seul qui me feront virer de bord, qui me feront fermer ma gueule. Tant qu'il y aura de la haine dans mes seringues, je ne chanterai que pour les dingues. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Y'a pas que les mômes dans la rue qui me collent au cul pour une photo. Y'a même des flics qui me saluent, qui veulent que je signe dans leur calot. Moi je crache dedans et je crie bien haut que le bleu marine me fait gerber. J'aime pas le travail, la justice et l'armée. C'est le point de main qu'on verra marcher avec les connards qui vont aux urnes choisir celui qui les fera crever. Moi ces jours-là je reste dans ma turne. Rien à foutre de la lutte de crasse, tous les systèmes sont dégueulasses. Je peux pas encaisser les drapeaux, quoique le noir soit le plus beau. La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler. Les marches militaires, ça me déglingue, et votre république, moi je la tringle. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Puis qu'on m'a tiré mon canif un soir au métro Saint-Michel. Je peux plus les pieds dans une manif, sans un nunchak ou un cocktail. À Longwy comme à Saint-Lazare, plus de slogan face aux flicards. Mais des fusils, des pavés, des grenades, violés contre la répression, en défilant Bastille Nation. Quand mes frangins crèvent en prison, ça donne une bonne conscience aux cons, aux nez de bœufs et aux pouces mégots qui foutent ma révolte au tombeau. Si un jour je m'en trouve la gueule par terre, sur ça sera de la faute à Balère. Si je crève le nez dans le ruisseau, sur ça sera de la faute à Bono. Pour l'instant ma gueule est sur le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Mais faites gaffe, j'ai mis la main sur mon flingue.
Donc voilà, on a fait une petite pause musicale, c'est rare hein, dans ce Canu Info avec Renaud où c'est que j'ai mis mon flingue. Et nous allons donc donner la parole à Sarah en premier, donc de la Crémette 69, qui va venir nous parler un petit peu du traitement de l'économie dans les médias. Alors, on sait qu'il est ultra biaisé ce traitement, ouais. Tu vas donc un petit peu nous expliquer pourquoi et comment.
Ouais, donc du coup pour parler de ça, je vais me baser sur le magazine Média Critique, qui est un magazine qui est édité par du coup notre association Acrimed, qui est un trimestriel. Donc je vais me baser sur celui qui est sorti en octobre, qui donc est centré sur le thème de l'économie et des médias. Quand on parle du traitement de l'économie dans les médias, on peut d'abord se poser une question, c'est qui est-ce qui parle d'économie dans les médias? Et quand on se penche sur ce sujet, on voit assez vite que les personnes qui parlent d'économie, qui sont appelées à s'exprimer sur l'économie dans les médias, sont le plus souvent présentées soit comme des experts, soit simplement comme des économistes, soit comme des chercheurs en économie ou des professeurs d'économie, voilà, autant de qualifications qui apportent une caution de scientificité à leur fonction et à leur discours. Du coup, ben, on voit ça, on se dit, ben, c'est super, je peux écouter ce qu'ils disent, ça a l'air scientifique, bon. Sauf que, si on va voir un peu plus loin, on se rend assez vite compte que c'est pas leur seule fonction. Ils sont pas juste profs d'économie, ils sont pas juste chercheurs. Ils ont d'autres fonctions qui souvent sont un tout petit peu plus lucratives, comme par exemple des fonctions dans des banques ou dans des grandes entreprises. Par exemple, là je vais m'appuyer sur une observation qui est parue dans le Média Critique donc d'octobre. C'est une observation qui a été menée sur Le Monde sur les 4 premiers mois de 2015. Et dans cette observation, ont été observées quelles économistes sont venues s'exprimer dans Le Monde sur les questions de politique économique européenne sur donc les 4 premiers mois de 2015. Et là, le résultat est assez parlant. On se rend compte que parmi les économistes qui ont été invités pour s'exprimer sur les questions de politique européenne, 71% sont ou membres de banques ou de grandes entreprises ou de la Banque Centrale Européenne. Si en plus on passe sur les 14% qui sont quand même favorables à la doxa libérale, qui est aussi celle de l'Union Européenne, il nous reste 3% d'économistes invités qui sont critiques vis-à-vis de l'Union Européenne, vis-à-vis de la politique économique européenne. Donc, outre que ça pose un problème évident de pluralisme, ça pose aussi la question du conflit d'intérêts. Parce qu'on peut se demander si un économiste qui travaille pour la Banque Centrale Européenne peut vraiment émettre des critiques sur la politique économique de l'Union Européenne. De la même façon, on peut se demander si un expert qui travaille pour une banque, qui est largement rémunéré par une banque, peut vraiment parler objectivement, en toute indépendance, du rôle des banques dans la crise financière. Voilà, on aurait plein d'autres exemples. Hein. Donc, alors, d'une part, ça nous amène à douter un tout petit peu de leur indépendance et de la scientificité de leurs paroles. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce qu'ils disent? Bon, la réponse est dans la question. Et on peut aussi mettre en avant ce par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire le problème de la transparence. Ces fonctions très lucratives sont très 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 rarement indiquées lorsqu'ils s'expriment dans les médias. De temps en temps, à la faveur de scandales sur le sujet, ça ressort. Mais bon, c'est assez vite oublié. Au bout de quelques semaines, on reprend les bonnes vieilles habitudes et on ne dit plus quelles sont leurs autres activités. Donc voilà, on a déjà le problème du pluralisme et le problème des conflits d'intérêts, le problème de la transparence. On a également un autre problème qui est lié, qui à la fois cause et conséquence, c'est la connivence qui existe entre les journalistes qui invite les experts et les experts eux-mêmes. C'est-à-dire que, en fait, là, quand on parle de ces économistes, on parle d'un petit noyau d'économistes. Ce sont un peu toujours les mêmes qui passent dans tous les médias, qui viennent un peu répandre leurs bonnes paroles dans toutes les émissions de radio, de télé, dans la presse. Et ça amène à la situation que ces économistes finissent par connaître très bien les journalistes des émissions dans lesquelles ils passent, qui sont pas forcément très nombreux non plus. Et je peux parler d'Aurélie Trouvé, qui est économiste, qui est docteur en sciences économiques et membre d'ATTAC, qui s'exprime aussi dans le Média Critique qui est paru en octobre, qui raconte son expérience. Elle est économiste, donc qu'on dit hétérodoxe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la ligne de pensée néolibérale dominante. Et elle raconte qu'elle, déjà en tant qu'économiste hétérodoxe, elle a beaucoup de mal à se faire inviter. Et quand elle se fait inviter, bon, en plus, elle se retrouve face à trois ou quatre économistes libéraux qui font front pour dézinguer son discours. Et en plus, il y a un troisième problème, c'est qu'elle n'a pas cette complicité avec les journalistes, ce qui influe. Alors, non seulement cette complicité entre journalistes et experts économiques influe sur le choix des invitations des journalistes, puisque il semble assez logique qu'ils invitent les gens qu'ils connaissent, qui sont leurs amis, qui sont en plus de mon client, parce qu'ils ont très bien saisi les codes de la parole médiatique. Mais en plus, ces journalistes-là ne contestent même plus ces économistes qu'ils invitent, puisqu'il y a une forme très claire de connivence et de complicité. Et donc, ces économistes ont toute liberté pour dire tout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire souvent à peu près tout et n'importe quoi sur le sujet économique, sans avoir absolument aucune contestation. Voilà, donc, ce manque de transparence, plus la question de la surreprésentation des économistes, plus l'absence totale de contradiction de la part des journalistes, ça amène à une construction des cadres du débat économique dans les médias, un cadre qui est très restreint du coup, et qui amène en fait à un simulacre de débat entre des franges plus ou moins modérées ou plus ou moins extrêmes de la pensée économique libérale, et ça exclut en fait toute pensée différente ou alternative ou hétérodoxe.
D'ailleurs, moi, j'ai noté que quand ils invitent un économiste, d'abord, souvent, effectivement, c'est un expert, comme si les économistes étaient des scientifiques. Donc, là, faut pas nous faire croire ça. C'est avant tout des idéologues, hein, puisqu'il y a plusieurs courants de pensée. Et donc, c'est pas une science dure. Hein, on peut pas démontrer comme Einstein a pu faire avec certains trucs. Ça marche pas comme ça, l'économie. Et en plus, quand ils les présentent, ils ne présentent jamais leur courant. Du coup, alors, on a vite compris que c'était tous des orthodoxes qui défendaient l'orthodoxie libérale, mais n'empêche que, alors que quand ils invitent un homme politique, ils disent toujours de quel parti il est, c'est-à-dire qu'on sache la couleur politique. Quand on invite un économiste dans un média, on dit jamais de quelle couleur, de quel courant de l'économie il est. Du coup, pour le public, moi j'ai l'impression que tout le monde croit qu'il n'y a qu'un seul courant qui existe finalement, et qu'il y a une économie et un type d'économiste, et il n'y a que ça, et donc il n'y a que ça de vrai, et donc on ne peut pas remettre en cause. Moi, c'est comme ça que je vois un petit peu les choses.
Ouais, ça participe aussi à créer l'idée que l'économie est une science exacte, et qu'elle a des mécanismes indépendants en fait de la volonté des personnes.
Et des peuples, du coup.
Oui, oui, complètement. Et... Le fait qu'on ne dise pas à quel courant appartiennent les économistes, ça prend des proportions encore plus grandes dans la mesure où la grande majorité des économistes invités sont en fait des économistes orthodoxes. Donc, oui. Et à ce propos, d'ailleurs, je peux citer une deuxième observation très vite, qui est aussi parue dans le Média Critique, qui est une observation qui a été faite sur 5 ans. Donc sur le temps long, sur les trois chaînes de télé publique France 2, 3 et 5, où on s'est rendu compte que, alors déjà, parmi la grande quantité d'économistes invités, 89 économistes, il y en a 8 qui se partagent 50% des invitations. Voilà, donc il y a déjà un petit souci de ce côté-là. Et on se rend assez vite compte qu'en fait, il y a 72% des économistes invités qui sont dans la ligne orthodoxe. et 15% qui sont dits hétérodoxes. Voilà, donc ça a quand même été fait sur 5 ans. Je trouve ça assez parlant comme observation.
Et avec cette attitude, moi je trouve, d'inviter des experts tout le temps, les journalistes montrent qu'en fait ils connaissent rien à rien, et que dès qu'il faut parler d'un sujet technique, eh ben, ils demandent à quelqu'un de parler à leur place. C'est quand même inquiétant que des journalistes soient pas capables d'avoir un discours sur l'économie, ça marche pour l'économie, ça marche pour tous les autres enjeux, enfin les autres sujets. Du coup, c'est facile un petit peu pour eux d'inviter toujours des experts pour parler à leur place, parce que comme ça, ça leur évite et de réfléchir et surtout de réfléchir.
Ouais, c'est l'un des travers actuellement dans les grands médias qu'on peut observer, et je pense que Pascal t'en parlera tout à l'heure par rapport aux attentats, peut-être.
Oui, t'avais autre chose à dire sur...
Non, là tout de suite, mais il y a plein de choses à voir là-dessus, sur ce sujet dans le Média Critique.
Voilà, vous lirez Média Critique. Du coup, c'est à toi.
Oui, donc bonjour. Alors, effectivement, on avait choisi au départ de parler de la question de l'économie. C'était un peu une chose qui était prévue. Et puis, évidemment, l'actualité a rattrapé les choses. Et donc, on s'est dit qu'il fallait essayer de parler du traitement médiatique des attentats. Voilà, donc c'est donc ce que j'ai essayé de faire. Alors, on aura vécu depuis le soir des attentats à Paris, le 13 novembre, comme en immersion dans le flot continu des informations sur les attentats du 13 novembre à Paris et ses suites. Fusillade à Saint-Denis, cavale en Belgique, frappe aérienne en Syrie, attentat à Bamako, puis en Tunisie. Il n'y aura eu que cela de partout, radio, télévision, journaux, sites internet, au moins pendant une semaine, au point que le monde semblait s'être arrêté de tourner. On aura vécu donc dans le tourbillon incessant des flashs d'infos, des directs interminables, des éditions spéciales succédant aux éditions spéciales, entrecoupées de débats en plateau, avec plein d'experts, là aussi, en terrorisme, et des spécialistes en radicalisation islamiste.
Ah, ça, c'est le mot magique, quand même.
C'est clair, c'est clair. Des images en boucle ou des animations vidéo sur les sites des journaux pour qu'on sache tout sur les fusillades, les victimes, les terroristes. Tout cela ponctué par les déclarations officielles du président de la République, omniprésent, hein, personne là, ça n'a échappé à personne, annonçant l'état d'urgence, la fermeture des frontières, un changement de la Constitution, etc. Le procureur de la République de Paris, faisant tous les jours un point presse devant les médias. Les ministres, hein, toujours en arrière-fond d'écran, Valls, bien sûr, Cazeneuve, un peu plus loin de Taubira, se déplaçant sur tous les fronts. Et les leaders de l'opposition qui sautent sur l'occasion à la veille d'une échéance électorale. On aura vécu, autrement dit, pendant au moins une semaine, sous le régime quasi exclusif de l'information en continu, avec ces nouvelles qui se succèdent à un rythme effréné, et ces longs moments d'attente où les envoyés spéciaux font du remplissage et répètent inlassablement les mêmes infos. Il faut bien tenir l'antenne. On connaît bien tout ça et on savait peut-être que ça allait se passer comme ça. Mais, nous dit-on, rien ne sera plus comme avant. Nous ont martelé...
C'est à chaque fois, je crois, qu'ils disent ça.
Oui, tout à fait. Les journaux et les télévisions en présentant les attentats comme le 11 septembre à la française. On a tous entendu ça. Rien ne sera plus comme avant, mais en même temps, du point de vue des médias, tout est à peu près comme avant. Et on peut presque dire même que le traitement médiatique des attentats parisiens peut être considéré comme une sorte de condensé ou de concentré de tout ce qui se fait de pire dans les médias dominants. Alors on peut essayer de caractériser cela en découpant la présentation des événements en trois temps qui suivent la chronologie de ces événements. Le temps de l'émotion, le temps de l'analyse, le temps des règlements de compte. Alors le temps de l'émotion, alors évidemment on ne pouvait échapper, compte tenu du caractère tragique et particulièrement violent des attentats, du nombre des victimes et de leur âge, à une légitime émotion et à un sentiment de compassion dans le grand public. Les chaînes télé n'auront pourtant pas pu réprimer quelques dérives plus voyeuristes sur TF1 ou France 2, notamment. Famille, par exemple, filmée dans l'attente de l'identification des corps, passants ou victimes semées de témoigner de leur peur ou des images d'horreur restant dans leur mémoire. Cela n'aura pas empêché les journaux ou les chaînes de télévision de s'auto-décerner, même si peut-être ce n'est pas passé trop dans le grand public, mais c'est des choses qu'on a pu lire et qu'on a pu voir, de s'auto-décerner donc les palmes de la retenue et de la responsabilité. ITélé, le 15 novembre. Nous avons fait le choix de ne pas diffuser les images de l'assaut du Bataclan. Le Figaro du 14 novembre. Les chaînes d'info ont retenu les leçons de Charlie. Catherine Neil, directrice de l'information du groupe de TF1, qui dit « Depuis un an avec Charlie, le Thalys et les autres événements, les journalistes ont acquis une grande maturité face à ces événements tragiques et en régie, nous étions là pour maintenir un grand degré de précision et de pondération des propos. » On est donc rassuré. Le temps de l'analyse. On n'aura pas échappé à la vase des experts, là aussi, pour plateau télé, et l'omniprésence en particulier de deux d'entre eux, Pierre Servant, expert en stratégie militaire, et Louis Caprioli, ex-patron de la DST et spécialiste en terrorisme islamiste, sollicités tous les deux à peu près de partout pour raconter à peu près de partout la même chose, c'est-à-dire annoncer les catastrophes à venir. On cite Caprioli, les attentats de Paris sont un échantillon de ce qu'on va avoir dans le futur. On cite Servant, la France est en guerre pour 20 ou 30 ans. Et donc, ils éclairent l'opinion pour le recours nécessaire et immédiat à plus de sécurité en France et dans le monde, si on ne veut plus dérouiller de la même façon. Alors, Acrimed a consacré à ces deux experts, on peut voir ça sur le site, un article qui s'appelle « La grande vadrouille médiatique de deux experts ex-attentats », où on peut apprendre qu'ils ont saturé de leurs analyses plus d'une vingtaine de chaînes de télévision et de radio, et un nombre conséquent de sites internet, soit 35 apparitions en 7 jours, un record. Pour avoir été autant invités, il faut sans doute que leurs discours ou leurs analyses plaisent aux médias qui les ont invités. Le temps des règlements de compte. Il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour entendre les éditorialistes, qui pensent que l'émotion et les événements leur donnent finalement raison, s'en prendre avec morgue et même avec haine à la gauche socialiste, qui a pourtant donné des gages sérieux de conservatisme depuis des années, mais plus encore à la gauche radicale, celle qui avait dénoncé quelque temps plus tôt les lois sur le renseignement et celle qui ose mettre en doute le bien fondé de la solution guerrière. On peut citer Ruth Elkrieff sur BFM TV qui pouvait se lâcher ainsi, citation, « Il y a eu une loi sur les renseignements, eh bien il y a des députés qui ne l'ont pas votée, qui l'ont considérée liberticide. » Un peu avant, elle disait, le mot « guerre » a été prononcé en janvier. Mais est-ce qu'on a tiré toutes les conséquences? De même, Joseph Massescaron de Marianne, le 14 de novembre, explique « Et l'on voit déjà le cortège des crétins des deux bords d'extrême-gauche et d'extrême-droite s'avancer vers nous. Ce sont vos guerres, ce sont nos morts », clament les premiers. Comme si la lutte contre les fous de Daesh et ses métastases en Afrique était une affaire de guerre coloniale. Décidément, jusqu'au bout, ils n'auront rien compris. Ensuite, un journaliste peut-être un peu moins connu, Benoît Reski, qui est cité ici sur atlantico.fr le 15 novembre, qui dit la chose suivante. « Oui, le carnage de Paris était prévisible. Le NPA et Lutte ouvrière sont là pour nous révéler que c'est Hollande, Sarkozy, Le Pen qui ont tout préparé. » Et un peu plus loin. « Pendant longtemps, ils ont eu de la choucroute dans la tête. Maintenant, ils ont du couscous. »
C'est la classe, hein, comme analyse.
Oui, c'est clair. Hein. On le voit, les événements ont eu au moins l'avantage de délier les langues et de montrer à quel point le commerce de l'insécurité et de la peur a pour les médias au moins de beaux jours devant lui. Voilà.
Eh ben merci.
Oui.
C'est... Ouais, je sais pas si bon c'est, moi je trouve que finalement cette série d'attentats a juste montré qu'ils faisaient comme d'habitude, hein, ce que tu disais
à une échelle toutefois peut-être plus élevée.
Oui, je pense que cette fois ça a été assez généralisé et sur un temps très très long.
Voilà, hein. Voilà. Ce qui est le sentiment qu'on peut avoir que j'ai essayé de traduire, mais le sentiment qu'on peut avoir, c'est le fait que donc la surfocalisation sur l'événement a eu deux effets. D'abord, ça a fait oublier qu'il y a le monde qui continue de tourner. Alors même si, évidemment, des événements dramatiques de cette sorte, on peut imaginer, bien sûr, forcément, qu'on va le traiter un peu plus. Mais là, c'est ce que les sociologues américains appellent une breaking news. C'est-à-dire que c'est une information qui va effacer tout le reste. On va mobiliser dans les salles de rédaction à peu près tout ce qu'il y a de disponible. Et tout le monde a traité le même sujet, avec des angles différenciés, etc. Et on va faire traîner ce temps, parce qu'on a intérêt à faire traîner ce temps. C'est important parce que là, on sait qu'on tient le public. Et donc, on fait de l'audience. Même avec du rien, même s'il s'agit de remplir, en envoyant des envoyés spéciaux sur place, qui vont glaner des miettes d'informations, qui n'auront pas grand-chose à dire, mais au moins, comme ils sont sur le terrain, il faut évidemment que ça soit rentabilisé. Et en même temps, on occupe beaucoup l'espace. Une des caractéristiques aussi des breaking news, c'est que ça produit un effet de consensus très très puissant. Et l'attention qu'on peut éventuellement porter aux discours un petit peu différents, aux informations un petit peu différentes, devient inintelligible. Ça produit un effet de censure très très puissant. Enfin, voilà, et tout le monde dit à peu près la même chose au même moment. Et donc là, effectivement, c'est assez ravageur. Et là, effectivement, on a vécu quand même très très immergé là-dedans pendant quelques temps. On a vécu comme complètement là-dedans, même si on ne voulait pas savoir ce qu'il en était, ben les informations nous venaient par plein de biais. Et donc, voilà, donc ça, là, c'est un effet de, on pourrait dire, de, il y a la réalité, mais il y a la façon dont les médias contribuent à la façon, à travers la façon dont ils en parlent, contribuent à la rendre omniprésente, ouais. Etc.
On a l'impression que c'est une réalité augmentée. Parce que c'est pas celle qui est la réalité. Ça a touché un bout de Paris. C'est rien par rapport à l'échelle de la planète. Et qu'en fait, ils ont mis une loupe dessus. Il y a que ça qui sort et tout le reste autour a disparu. D'accord. Et qu'on est immergé comme dans la réalité augmentée des mondes virtuels. On est immergé dans un truc sur lequel on peut pas voir autre chose du coup.
Il y a une autre chose dont on n'a pas tellement entendu parler dans la situation. C'est l'effet de ce consensus probablement. C'est on pourrait dire les arrière-pensées politiques. Qui peuvent être celles des groupes politiques qui celui au pouvoir évidemment hein. Ça arrive quand même dans un arrière-fond de lutte politique acerbe hein, et de tensions politiques très très fortes entre la gauche socialiste qui a plus beaucoup de crédit hein, et qui se débat pour essayer de garder quelques strapontins au plan électoral. Elle est quand même relativement discréditée. Voilà. D'un autre côté, ben, la droite traditionnelle n'a pas non plus repris la main et ils sont tous très apeurés par le troisième parti. Maintenant, on fait du tripartisme, mais le troisième parti qui est présent, oui, je t'en prie.
Ouais, mais du coup, c'est de se focaliser autant sur un phénomène comme ça, là, c'est flagrant qu'ils servent, ils font le jeu de l'extrême droite, de toute façon. C'était inévitable.
Absolument.
Même si, là, il y a des sondages qui le montrent, mais dès le départ, c'était couru d'avance. Quand on se focalise sur un phénomène comme ça, on fait le jeu inévitablement de l'extrême droite.
Alors, dans le travail journalistique, on pourrait imaginer qu'ils aient une attention moins pour nous parler de la situation. Enfin, en tout cas, il faut évidemment parler de la situation, des mesures qui sont prises, etc. Mais curieusement, on n'entend plus personne parler de ces intérêts politiques-là. On aurait pu imaginer, par exemple, qu'il y aurait de formidables papiers ou de formidables émissions à faire sur le fait, par exemple, que la stratégie de communication, qui est celle, évidemment, du gouvernement en place, ça va consister, bien sûr, à faire là, à prendre la main, à prendre l'initiative, et tout le monde le ressent bien, c'est-à-dire on va couper le pied aux adversaires. On va couper pied à leurs arguments. Bien sûr, là, et d'une certaine façon, sans le dire tout à fait, on va mettre en œuvre une politique. On pense par exemple à la déchéance de la nationalité, ce qui était une vieille revendication. Voilà, ouais. C'est tout à fait ça. Et alors là, c'est repris comme une mesure, effectivement, faite par les socialistes. Et d'une certaine façon, c'est électoralement parlant. Alors, on ne sait pas ce que ça donnera plus tard. Hein. On joue quand même avec le feu un petit peu.
Oui, là, ils jouent vraiment avec le feu.
Voilà.
Feu nucléaire, quoi. C'est
très
dangereux, quoi.
Ouais. Mais électoralement parlant, on peut imaginer qu'il y a un ensemble de communicants derrière qui ont pensé ça. Mmh. C'est-à-dire que la ligne n'est pas, même si les communicants, c'est pas des fantômes qui agissent dans l'ombre uniquement. Hein, c'est évidemment l'état-major du parti, etc., qui s'engage derrière ça. Mais effectivement, ça tombait à point nommé d'une certaine façon pour le Parti socialiste, pour reprendre la main et réapparaître comme ça sous un jour un peu moins disqualifié auprès du grand public.
Bon, pour l'instant, ça a l'air contre-productif, hein, quand même.
C'est possible que ça...
On verra les élections.
Oui, oui.
Bon, voilà. Bah, merci d'être venu parler de ces deux sujets. Il nous reste une minute pour faire un tout petit agenda avant de laisser la place à l'émission suivante. Merci, je voulais juste annoncer, puisque le préfet a tout annulé, sauf si vous faites du sport et que vous courez nu dans la rue, le reste du temps, si vous êtes citoyen et que vous voulez vous exprimer, vous n'avez aucun droit aujourd'hui. Donc la manif pour le climat est annulée. Il reste une rencontre bouffe de soutien à la Ruche pour ceux qui habitent Villefranche. Donc la Ruche des citoyens, c'est un local autogéré à Villefranche, dans lequel participent la CNT Interpro, notamment des collectifs de soutien aux sans-papiers, le groupe local de la NEF, la banque un petit peu alternative. Voilà, ils ont besoin de soutien. Ils font un repas à prix libre vendredi, donc demain soir à 19h30 dans leurs locaux. C'est 19 rue de Prony, donc à Villefranche. Si vous êtes par là-bas, allez soutenir. C'est un beau projet. Merci et donc à une prochaine fois sûrement.
Okay, merci à vous.
Tous les dimanches à la